L'ours et la carotte. Une émission d'environnement proposée par Nicolas Saint-Martin et Claire Cayrouga.
Bonjour Adrien.
Bonjour.
Donc on est avec toi aujourd'hui pour parler de Comown, l'entreprise, alors je sais pas trop comment l'appeler parce que c'est une entreprise, c'est une société coopérative. En tout cas, vous travaillez à quatre cofondateurs à de l'électronique plus responsable.
Alors en général, on dit la coopérative de l'électronique responsable et je rajoute en sous-titre tant que faire se peut, hein, parce qu'effectivement, l'électronique, elle est de facto impossible à être parfaitement responsable aujourd'hui, mais on y travaille.
Alors l'électronique, c'est-à-dire ?
Ben, ça va être tout ce qui est objet connecté. Donc le produit phare, c'est le smartphone, parce qu'il représente très bien tous les travers de l'électronique aujourd'hui. Après, on va avoir aussi des ordinateurs.
Alors pourquoi justement le smartphone, c'est vraiment...
C'est quelque chose qui concentre tous les travers de la mondialisation et aussi un peu du capitalisme. C'est-à-dire que c'est un produit qui nécessite 4 tours du monde à peu près pour sa construction. Ces pièces détachées proviennent du monde entier. Elles sont fabriquées dans des conditions de travail qui sont en général pas des plus respectueuses des droits de l'homme. Au-delà de ça, c'est un objet qui consomme une quantité astronomique de ressources. Pour pouvoir faire un téléphone, il faut extraire environ 40 kg de matière première. Donc c'est vraiment un modèle de production purement extractiviste qui se base sur des matières premières dont on a en quantité très faible, puisque ça va exploiter notamment ce qu'on appelle les terres rares et ce genre de matériaux qui, bien qu'abondants, sont très peu concentrés dans la couche terrestre et qui nécessitent des conditions d'extraction qui, là aussi, posent des problèmes environnementaux énormes. C'est un objet qui est très intéressant parce qu'il permet justement d'aborder plein de questions sur le fait qu'aujourd'hui, avoir ce type d'objet, c'est permis parce que c'est basé sur des inégalités à l'autre bout du monde. Si on n'avait pas du travail ou de l'esclavage moderne à l'autre bout du globe, on ne serait pas capable d'avoir un téléphone à 300 euros dans sa poche, puisque s'il était produit en Europe, avec des matériaux extraits en Europe, dans des conditions de l'Union européenne, le coût de cet appareil serait sans doute plusieurs dizaines de milliers d'euros, en fait. C'est très difficile à évaluer, mais vu qu'on utilise ce différentiel-là, ça rend ce produit très accessible, alors qu'en soi, c'est une hérésie environnementale, une hérésie sociale d'avoir autant de puissance dans la poche.
D'accord, donc c'est comme ça que vous vous êtes regroupés, les quatre cofondateurs de Comown, et vous avez chacun des parcours assez originaux. Toi, Adrien, qu'est-ce que tu faisais avant ?
Alors moi, avant, j'étais chimiste. Donc j'ai un doctorat en chimie organique et dans mon dernier poste, je travaillais sur la valorisation des sous-produits ou des déchets de l'horticulture pour en faire des produits cosmétiques. Donc on peut dire que c'était déjà dans une approche d'économie circulaire, valorisation des déchets, tout ça. Après, la finalité, c'était pour trouver des nouveaux actifs pour l'industrie cosmétique, pour laquelle aujourd'hui, c'est vrai, avec un peu de recul, je suis un petit peu critique. Mais j'étais chimiste. J'étais passionné par mon travail parce qu'il faisait appel à de la créativité, de la curiosité, de la rigueur. Enfin, c'était plein de choses. J'étais très épanoui. Simplement, au bout d'un moment, je ne me retrouvais plus dans l'épanouissement de ce travail-là et d'un autre côté, mes valeurs, en fait.
Voilà, donc ce sont des valeurs communes qui vous ont fait vous rejoindre. Et tes trois autres collègues, qu'est-ce qu'ils faisaient avant ?
Le projet, il est arrivé en maturité à la fin de l'année 2017, mais ça faisait un an qu'il était en gestation et qu'il était porté par Eli Assema, l'initiateur du projet, qui, lui, pour le coup, a depuis toujours une très profonde notion des externalités positives et négatives qui l'entourent, puisqu'il est notamment bouddhiste pratiquant, il a été élevé dans une ferme en Ariège, donc il était vraiment au contact de la nature constamment. Et à côté de ça, il est passionné d'électronique, il a un doctorat en physique fondamentale. Dans son dernier poste, il travaillait sur le contrôle quantique qui avait pour application finale le développement des ordinateurs quantiques, qui, quand on sait à quoi ils sont destinés, n'est pas forcément très glorieux, puisqu'on va développer ça pour le trading haute fréquence ou pour la NSA. Donc, c'est pas forcément des applications pour l'amélioration du bien commun, en fait. En parallèle, il était l'heureux propriétaire d'un Fairphone il suivait le projet depuis très longtemps. Il était le propriétaire.
Alors, c'est quoi un Fairphone ? Parce que tout le monde connaît pas, hein ?
Oui, bien sûr. Alors, le Fairphone, donc, c'est le produit qu'on va proposer au sein de notre coopérative. C'est un smartphone qui se veut plus responsable que la moyenne dans la mesure où il est éco-conçu déjà, donc il va être très facilement réparable. On va pouvoir changer en un simple geste l'écran sans même avoir besoin d'outils. Si on regarde les analyses en cycle de vie du téléphone, au niveau de la production, qui est une des grosses dépenses et des grosses parties émettrices de CO2, 70% des émissions de CO2 sont contenues dans le cœur de l'appareil. Le cœur de l'appareil, si on arrive à le maintenir en vie le plus longtemps possible, de facto, on va réduire les émissions CO2 associées à son appareil. Et donc, toutes les pièces qui gravitent autour peuvent être changées. Donc, l'écran, la batterie, le micro, l'antenne peuvent être changées, mais le cœur, lui, restera fixe. Mais au-delà de ça, l'entreprise a une approche sociale assez intéressante, puisqu'à la base, c'était une association qui militait contre les externalités négatives. Tout le monde leur disait que c'était impossible de faire mieux que ce qu'il existait, donc ça les a un peu agacés. Ils se sont retroussés les manches et ils ont lancé leur premier téléphone, c'était le Fairphone 1 à l'époque, qui avait déjà, à l'époque, travaillé énormément sur la traçabilité des métaux. C'est-à-dire qu'ils ont fait labelliser 5 métaux exempts de conflits. Donc on va voir le tungstène, l'étain, le tantal, l'or.
Exemple de conflit, ça veut dire qu'il n'a pas induit des problèmes dans les pays où c'est extrait ?
Oui, voilà. En général, ces métaux-là, on les appelle des minerais de sang, parce qu'ils ont tendance à financer des guerres civiles, notamment en République démocratique du Congo. Les mines sont détenues par des milices armées, et l'exploitation de la mine finance directement l'activité sanglante que peuvent avoir ces milices, en fait. Donc, tout l'enjeu, c'est d'essayer de remonter les filières de production jusque dans la mine pour s'assurer que ça ne soit pas le cas. Donc, ils ont réussi à le faire sur un certain nombre de métaux que j'ai cités. Et là, en ce moment, ils travaillent sur le cobalt, qui est un enjeu très important puisqu'il est aussi extrait en RDC et les filières de production sont très difficiles à traçabiliser. Et ça, c'est vraiment le point essentiel de l'entreprise, c'est qu'ils sont vraiment dans une amélioration continuelle de leurs produits, de leurs méthodes de production. Par exemple, ils travaillent aussi étroitement avec leurs unités d'assemblage qui sont également en Chine, parce que le téléphone, il est conçu aux Pays-Bas, mais il est assemblé en Chine. Et donc, avec leurs usines en Chine, ils travaillent à l'amélioration des conditions de travail des ouvriers. Alors par exemple, ils ont réussi à diminuer de 10 heures le volume hebdomadaire dans les usines, donc les ouvriers travaillent plus que 60 heures par semaine. Donc c'est quand même pour montrer un petit peu le chemin qui reste à parcourir pour arriver aux 35 heures, quoi. On en est très très loin.
Donc pour avoir un peu des chiffres, parce que c'est vrai qu'on se dit, oui, bon, ok, d'accord, donc on a compris, nos téléphones portables ont un impact sur l'environnement, tu disais.
C'est 40 kilos de matière extraite. Parce que quand on va extraire le néodyme, par exemple, ça c'est un autre problème que malheureusement on n'arrive pas à améliorer. C'est une terre rare qui permet de faire les écouteurs, les micros, etc. Et donc là, on va devoir extraire des quantités astronomiques de terre et les broyer. Et pour arriver à concentrer ce composé-là, il va falloir extraire des quantités énormes de matière. Et accessoirement, cette extraction-là est très préjudiciable pour l'environnement, puisque dans cette gangue, il y a des matériaux radioactifs, ce qui provoque des nuages de radioactifs autour des exploitations. Et c'est pour ça notamment qu'on a les villages de cancer que l'on connaît en Chine, quoi.
Donc à peu près 40 kilos de terre, de matière par téléphone, un impact écologique énorme, des mauvaises conditions de travail. Ça, on peut se dire oui, d'accord, mais bon, j'achète pas un téléphone non plus trop souvent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2007, que le premier smartphone a été créé, il y a eu plus de 7 milliards de smartphones à travers le monde qui ont été achetés et souvent jetés au bout de pas si longtemps que ça. Donc voilà, ça c'est l'objectif de Common, c'est justement de travailler à allonger la durée de vie des téléphones existants, des smartphones. Donc Fairphone, c'est une solution, mais vous allez plus loin à Common.
Tout à fait. Oui, effectivement, nous, on se place en tant que fournisseur de services. C'est-à-dire qu'on va se baser sur le Fairphone pour le proposer en location longue durée sans option d'achat. C'est-à-dire que la coopérative va rester propriétaire du matériel quelle que soit la durée d'engagement. Ce qui fait qu'on va déjà vous limiter énormément la dispersion des matières, puisque quand on est sur un modèle de vente, on va vendre des objets, mais on ne saura pas vraiment où ils vont terminer leur vie. Alors que là, on reste propriétaire du matériel, donc on va gérer le cycle de vie du matériel du début jusqu'à la fin.
Donc vous êtes du coup responsable de vos déchets et vous avez tout intérêt à ce qu'ils fonctionnent et à pouvoir les réparer le plus longtemps possible.
Oui, effectivement, puisqu'en fait c'est notre richesse. On va forcément avoir comme intérêt, c'est même un intérêt économique, que de mener le plus loin possible l'exploitation de notre flotte d'appareils. Donc ce qui est intéressant dans cet aspect-là, c'est que on va considérer les appareils de notre flotte comme des réservoirs de pièces détachées et non pas uniquement comme des appareils. C'est-à-dire que si un premier client casse son téléphone, qu'il est difficilement réparable, on va le récupérer et avant de l'envoyer au recyclage, on va le considérer comme source de modules en fait. Donc on va dire, ah ben tiens, la caméra elle fonctionne encore, on va s'en servir pour réparer le téléphone d'un deuxième client en fait. Et donc ça c'est vraiment une force parce que aujourd'hui le recyclage de l'électronique c'est très complexe. C'est vraiment, ça demande des processus énergivores et en plus on arrive à des très faibles taux de recyclage en fonction des métaux. Donc avant de penser au recyclage, il faut privilégier l'allongement de la durée de vie et chez nous on va privilégier l'allongement de la durée d'exploitation de chaque module en fait. Donc c'est aller encore plus loin que la simple exploitation et la simple durée de vie des appareils, quoi.
Et donc ça, c'est un concept finalement ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité. Vous proposez aux gens, non pas d'être propriétaires d'un téléphone, mais d'en devenir juste les locataires. C'est pas un petit peu difficile ? Ça fait quand même un petit peu bizarre aux gens. On est habitué à posséder les choses, non ?
Oui, effectivement, là, je viens juste de présenter l'avantage environnemental de ce modèle-là, mais l'avantage pour l'usager, puisqu'en fait, il va plus être propriétaire de son objet. Et c'est vrai que le smartphone, c'est un peu le doudou du 21e siècle, donc ça c'est quand même 10 fois difficile à faire passer. Mais nous on va essayer de les accompagner dans l'usage pour maximiser l'expérience utilisateur. Donc on va prendre par exemple en charge tout ce qui va être casse, panne. Dans le cas de l'abonnement le plus élevé, on va voir le vol et la perte également.
Et là, il va falloir effectivement aussi revoir un peu cette notion de « si ça ne m'appartient pas, souvent, on prend moins soin des choses ».
Ben, c'est aussi pour ça qu'on a choisi le statut de société coopérative d'intérêt collectif, c'est-à-dire que nos clients peuvent également être sociétaires de la coopérative, donc ils peuvent prendre une part au moment de la commande dans notre coopérative, c'est à 20 euros, donc c'est très accessible. Ainsi, ils deviennent copropriétaires symboliquement de ce bien commun que représente notre flotte d'appareils. Donc, on espère que ça va permettre de leur faire prendre conscience de la richesse qu'ils ont entre leurs mains. Mais on va ici, là, en ce moment, mais bon, c'est encore un peu tôt pour en parler, on est en train de travailler sur des mécanismes qui pourraient être encore plus incitatifs pour récompenser les bons usages. Mais bon, c'est vraiment dans les tuyaux, on n'a pas du tout de choses opérationnelles là-dessus.
Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Si tu me laisses la Tchétchénie, moi je te laisse l'Arménie. Si tu me laisses l'Afghanistan, moi je te laisse le Pakistan. Si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour Bangui. Si tu m'aides à bombarder l'Irak, moi je t'arrange le Kurdistan. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Si tu me laisses l'uranium, moi je te laisse l'aluminium. Si tu me laisses tes gisements, moi je t'aide à chasser les talibans. Si tu me donnes beaucoup de blé, moi je fais la guerre à tes côtés. Si tu me laisses accès ton or, moi je t'aide à mettre le général dehors. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, aïe, 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 aïe. Plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé Africa sans nous consulter. Ils s'étonnent que nous soyons désunis. Une partie de l'empire mandingue se trouva chez les Wolof. Une partie de l'empire Mossi se trouva dans le Ghana. Une partie de l'empire Soussou se trouva dans l'empire mandingue. Une partie de l'empire mandingue se trouva chez les Mossi. Ils ont partagé Africa sans nous consulter, sans nous demander, aïe aïe aïe, sans nous aviser. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde.
Adrien, vous êtes dans une société coopérative d'intérêt collectif, on en parlait, qui s'appelle Common, mais qui est encore en émergence. C'est un projet très neuf. Mmh. Et aujourd'hui, finalement, vous êtes justement ouvert en termes de... Alors, je ne sais pas si on peut dire capital. En fait, vous avez besoin de beaucoup d'investissements. Il faut qu'on puisse imaginer... Bon, toute entreprise a besoin de beaucoup d'investissements. Mais vous, en fait, il vous faut, tu disais, une flotte de matériel. Alors, des téléphones de type Fairphone, mais aussi des ordinateurs.
Oui, alors, pour les ordi, on va avoir différentes gammes d'appareils. Mais en général, on rentre directement dans le milieu de gamme. Enfin, on ne peut pas proposer en location longue durée sur ce modèle-là des ordinateurs de mauvaise qualité. Enfin, ça ne fait pas sens, en fait. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à proposer ce genre d'appareil, des appareils très fiables, en fait, et souvent assez onéreux. Donc, ça va représenter des montants financiers considérables. Là, on s'est lancé en janvier. On a à peu près levé, depuis janvier, tout cumulé, 550 000 euros. Pour une flotte, là, on en est à 350 appareils en circulation. Et notre point d'équilibre, donc le moment où la société deviendra stable financièrement, c'est entre 1000 et 2000 appareils. Donc on voit là l'enjeu que peut représenter cette aventure. Et c'est pour ça qu'on a mis en place différents outils de financement. Donc on a plein d'interlocuteurs, notamment en lien avec l'économie sociale et solidaire, qui sont sensibles à notre statut et à notre démarche. Et au-delà de ça, on a ouvert le capital puisque n'importe qui peut prendre des parts sur notre site web directement, puisque donc les bénéficiaires peuvent prendre des parts, les clients, mais n'importe qui d'âme qui passerait sur le site pourrait prendre une part, et donc c'est ce qu'on appelle l'épargne sociale et solidaire.
Finalement, vous permettez des services concrets de location de matériel, téléphone, ordinateur, mais derrière tout ça, encore mieux, vous voyez finalement un levier possible pour réduire l'impact de l'électronique jusqu'au producteur de l'électronique, parce qu'au final, la question, elle est là aussi. Si ça marche avec le Fairphone, c'est parce qu'il a été conçu dès le début pour être réparé et avoir une vie plus longue. Donc, le futur écologique de l'électronique, il est dès la conception. Et vous avez votre rôle à jouer là-dedans.
Bien sûr. Alors, en fait, l'autre avantage du statut coopératif, c'est qu'on peut fédérer au sein d'un même projet un certain nombre d'acteurs qui peuvent avoir des aspirations différentes. Et donc là, on a rassemblé trois assembleurs d'ordinateurs. Et l'idée, c'est qu'on épaule ces producteurs pour qu'ils passent d'un modèle de vente à un modèle de location. Parce qu'on considère que vendre des produits durables ou éco-conçus, ça ne fait pas sens sur un marché qui est basé sur le renouvellement des flottes pour générer de l'argent. Et cette transition-là est très difficile, en fait, parce que passer d'un modèle de vente à un modèle de location, c'est revoir complètement ces mécanismes de trésorerie, de financement, etc., etc. Et donc, nous, on est là pour apporter notre expertise et pour accompagner ces acteurs vers ce changement. Et une fois que ce changement aura pu opérer, ils pourront se focaliser sur l'éco-conception et maximiser la durée de vie de leurs appareils. Et pourquoi pas, si on arrive à rassembler suffisamment d'acteurs au sein de ce projet, on pourrait imaginer des projets mutualisés. Les assembleurs d'ordinateurs pourraient se concerter pour commander la même barrette de RAM à tel producteur, chez qui on imposerait qu'il utilise de l'or qu'a fait labelliser Max Avelar, Fairphone.
Max Avelar, c'est pas que du café et de la nourriture
hein? Ouais, non, effectivement, ils font. Alors, c'est vraiment, il n'y a que Fairphone qui a réussi à faire labelliser de l'or Max Avelar, mais ils ont voilà, l'or dans le Fairphone et labellisé Fairtrade, quoi.
D'accord. Alors la question qu'on se pose derrière tout ça, c'est ça va être beaucoup plus cher?
Alors en fait, ça dépend. Si on se base sur les standards du marché aujourd'hui, qui n'incluent absolument pas toutes les externalités négatives, forcément que ça sera plus cher qu'un Wiko à 200€, qui est une vraie plaie, quoi. Maintenant, il faut s'interroger sur ce dont on a vraiment besoin dans un smartphone. Parce que si on continue à être dans une espèce de course à l'échalote de la puissance du produit de toujours de plus en plus innovant, avec des écrans pliables, enfin maintenant on voit de tout et n'importe quoi, c'est une aberration. Donc si on est toujours dans cette course, dans cette fuite en avant, c'est sûr que on n'arrivera jamais à rien. Donc il faut vraiment s'interroger sur qu'est-ce qu'on a besoin dans un smartphone. Et si vraiment on a besoin d'un smartphone? Ça, c'est les deux questions fondamentales. Si on arrive à la conclusion qu'on n'a pas besoin de smartphone, eh ben, c'est parfait, il ne faut pas avoir de smartphone et il ne faut pas venir chez nous. Moi, je n'avais pas de smartphone jusqu'à il y a 4 mois, quand mon vieux téléphone a lâché. Là, aujourd'hui, je suis responsable communication de Common, il me fallait un Fairphone, ça devenait difficile, ma position était difficilement tenable. Donc voilà, donc on s'interroge sur le besoin. Il y a plein d'enjeux là. Là, on pourrait dire qu'avec Common, on essaye de sauver l'électronique. Et ça peut être hyper ambitieux, compte tenu des crises auxquelles on est susceptible de faire face. C'est-à-dire que l'électronique aujourd'hui, elle n'est absolument pas résiliente. Elle est basée sur un modèle de production ultramondialisé qui dépend de monopoles de production, de monopoles de pays d'extraction. Donc s'il y a des crises géopolitiques, des ruptures d'approvisionnement, c'est terminé, il n'y a plus de smartphones, on oublie quoi. Donc avec Common, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de trouver un nouveau modèle qui pourrait continuer à perpétuer l'usage de l'électronique et de pouvoir continuer à bénéficier de ses avantages. Et donc, si on réfléchit aux avantages de l'électronique, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité de créer du lien entre des personnes, l'horizontalisation de l'accès à la connaissance, l'autonomisation des gens, ça va être le développement, pourquoi pas, de l'esprit critique, de pouvoir faire des mobilisations de désobéissance civile. Enfin, il y a énormément d'avantages à la connexion entre les personnes. Et souvent, on compare le développement du web aux outils de communication qu'ont mis en place les forêts. Parce qu'avec leurs tissus racinaires qui sont interconnectés avec les champignons, elles ont une résilience très importante face à un incendie. L'arbre va être capable de prévenir ses congénères. Attention, ça chauffe, prépare-toi, quoi. Et donc, nous, notre outil de communication, c'est un peu le même que la forêt, il est très horizontal, sauf qu'il est basé sur des outils opérationnels absolument pas durables et absolument pas éco-conçus et absolument pas résilients. Donc, si on essaye de réfléchir, peut-être qu'à l'avenir, on n'aura pas tous individuellement un smartphone, mais peut-être qu'on aura simplement dans son habitat partagé 3 ou 4 ordinateurs en location gérés par une coopérative qui aura à cœur d'allonger encore plus leur durée d'usage. Ces ordis permettront l'accès à la connaissance, permettront le lien qui nous est aujourd'hui permis. Par contre, est-ce qu'on aura encore la nécessité d'être baigné dans cette immédiateté et dans ce besoin d'ultra-connexion? Ça, je ne suis pas certain en fait.
Et finalement, revoir nos besoins, c'est effectivement se dire, est-ce que j'ai besoin d'un téléphone aussi performant, qui a autant de mémoire, qui a autant de fonctionnalités? Et si on revoit ces besoins-là à la baisse, on peut avoir des téléphones ou des ordinateurs qui consomment moins d'énergie aussi.
Oui, effectivement, là, nous, par exemple, pour les ordinateurs, on va proposer en fixe des ordinateurs fanless, qui, en plus, pour le coup, ne sont pas forcément moins puissants. Ils sont de puissance équivalente, mais ils vont consommer moins d'énergie parce qu'ils n'auront aucune pièce mobile. D'autre part, ils sont la plupart du temps sous Linux, puisque ça a aussi tendance à allonger la durée de vie des appareils. Donc, c'est sûr que si on arrive à faire le bilan de ces besoins, on ne va pas acheter le dernier iPhone 10 qui vient de sortir, qui présente des petits avantages qui ne servent à rien. Je crois qu'on arrive à 1 Tera de stockage sur un téléphone en ce moment, mais c'est juste une hérésie, quoi. J'ai tout juste ça sur mon ordinateur, quoi.
Mais là, il y a une part de responsabilité aussi dans les concepteurs. Pourquoi les programmateurs, informaticiens, ingénieurs vont toujours vers plus, plus, plus? Finalement, on a besoin de téléphoner. Bon, maintenant, on a besoin d'envoyer des petits textos, peut-être de recevoir des mails, quoique. C'est bien aussi peut-être de ne pas être tout le temps connecté, notamment au travail. Pourquoi toujours plus?
Ça, c'est juste en fait le bon vieux modèle de la croissance, hein. C'est-à-dire que là, l'innovation génère de la richesse, allons-y gaiement. Donc, les concepteurs d'applications ou de logiciels considèrent que les ordinateurs, les téléphones vont devenir toujours de plus en plus puissants. Donc, eux se font plaisir, ils font des trucs de plus en plus gourmands. Leurs lignes de code, elles ne sont absolument pas éco-conçues, ils en font des tartines et des tartines. Donc, dès qu'on va lancer une application, ne serait-ce d'un bloc-notes, alors ils vont avoir plein de petits trucs qui vont demander énormément de ressources à l'appareil. Alors que s'ils intégraient l'éco-conception dans leur conception d'applications et de logiciels et qu'ils partaient du principe qu'on a atteint un certain plafond de verre de puissance, puisque quand même aujourd'hui, d'un point de vue technique, on est à un certain plafond de verre, là, parce qu'en fait la puissance, elle vient de notre capacité de miniaturisation. Et aujourd'hui, cette capacité de miniaturisation, là, on en est presque rendu à l'atome, en fait. Donc, on pourra difficilement aller plus loin. Donc, aujourd'hui, les téléphones ou les ordinateurs sont déjà limités dans leur progression en puissance. Et franchement, on a largement assez de puissance, là. Ça suffit. Donc, si jamais les concepteurs d'applications intégraient ce paramètre-là, peut-être qu'ils pourraient essayer de se différencier par la sobriété de leurs nouvelles applications. Et l'éco-conception des applications deviendrait le facteur discriminant.
On touche un peu peut-être aussi à la question des logiciels libres qui sont dans une... pas tous, hein, mais dans une réflexion sur ça.
Les logiciels libres, leur gros avantage, c'est que c'est open bar, c'est-à-dire que n'importe qui peut regarder comment ça fonctionne. Là, il n'y aura pas de petite ligne de code masquée qui va permettre de capter les données personnelles des gens. Si c'est le cas, ben ça va être visible. Donc, après, effectivement, on va être là dans tout ce qui touche à la protection des données et au fait que si on utilise des logiciels propriétaires et notamment tous les logiciels qu'on va trouver dans la suite de Google Play, ça va être des applications qui vont avoir pour objectif in fine de collecter des données sur les utilisateurs afin d'optimiser leur acte de consommation, puisque en fait les données personnelles servent uniquement à optimiser au maximum la publicité. Donc on offre des données à des annonceurs publicitaires qui vont nous pousser à consommer, donc qui vont favoriser la surconsommation dans une approche ultra-capitaliste, puisque in fine, la richesse qui est créée par ces flux financiers va bénéficier aux actionnaires de Google, par exemple, qui se trouvent être aussi les 10% de personnes les plus riches qui polluent le plus. Donc bon, c'est un système vraiment, vraiment naze, il faut le revoir complètement. Donc le logiciel libre permet de s'en affranchir un petit peu.
Finalement, tous ces gens-là ont peut-être oublié qu'il y avait des limites. Vous, à Common, vous avez bien compris les limites. Et donc, si on veut vous aider, vous êtes en plein boom de développement. Donc, Common, c'est une sorte de jeu de mots. Hein. On n'a pas épelé, mais en fait, c'est un jeu de mots entre commun et own, en anglais, à posséder. O-W-N à la fin. Donc, vous avez un site internet très très bien fait.
Oui, effectivement, donc ça va être common.fr. Sinon, en tapant coopérative de l'électronique responsable ou location de Fairphone, en général, on tombe rapidement sur notre site web. Et on essaye d'expliquer au mieux la démarche parce que c'est quand même un modèle qui nécessite pas mal de pédagogie parce qu'il n'est pas commun, même si on n'a pas inventé la location, hein, soyons clairs. Lokéo le font déjà. Là, dernièrement, il y a Mobile Club, ils vont proposer des iPhones en location sans engagement. Ils sont franchement balèzes, je ne sais pas comment ils font au niveau financier, c'est super tendu. Mais reconditionnés, donc c'est assez intéressant. On est très curieux de voir comment ils vont arriver à se positionner. Mais donc il y a plusieurs acteurs qui se lancent. Lokéo, pour le coup, ça fait 7 ans qu'ils existaient. Mais il n'y avait aucun acteur qui avait essayé d'associer la location longue durée avec des produits éco-conçus.
Et alors, ce qui serait super aussi, ce serait que de grandes entreprises ou des collectivités croient en vous, investissent dans votre société, parce qu'une société coopérative, c'est ouvert à tout type de... à des entreprises, à des collectivités, à des particuliers. Et finalement, s'équipent aussi chez vous d'un parc informatique et montrent l'exemple.
Oui, alors on a beaucoup parlé là du B2C, hein, donc vers le particulier, mais on s'oriente également vers le professionnel et on a déjà des liens avec des collectivités et avec des entreprises avec qui on essaye de monter des projets pour leur déployer des flottes d'appareils. Donc ça pourrait aller de 15 à 100 appareils, voire plus en fait. Nous, l'équipe aujourd'hui sur le Fairphone, en une journée, on est capable de reconditionner 50 appareils, c'est-à-dire qu'on les achète neufs. Mais ce qu'on fait, c'est que quand on les reçoit, on les démonte intégralement, on numérote les identifiants de chacun des modules pour faire des analyses de cycle de vie sur les modules indépendamment des appareils. On les remonte, on leur fait passer toute une batterie de tests pour s'assurer qu'ils soient bien fonctionnels, on les remet dans le packaging et on les envoie par la poste en fait. Donc on peut en faire 50 par jour. Donc on peut être, on a vraiment tous nos outils opérationnels et logistiques qui sont rodés. Donc on peut aller vers le secteur privé sans trop d'appréhension quoi.
Eh ben merci beaucoup Adrien et on espère que ça va bien marcher.
Mais merci à toi pour l'interview.
C'était l'ours et la carotte. Écoutable sur internet. That's true.